355, le podcast des rendez-vous littéraires rue Cambon. Elles ont créé avec ardeur et intelligence, bousculé leurs semblables, troublé les hommes et parfois aimé de manière non conventionnelle. Qui sont-elles ? Je suis Charlotte Casiraghi et je vous propose de partir à la rencontre de ces grandes figures féminines dans une nouvelle série de podcasts intitulée « Les rendez-vous littéraires rue Cambon ». C'est le parcours hors norme de ces femmes d'exception que je vous présenterai dans les mois à venir. L'histoire et l'œuvre de figures dont le souffle créateur continue encore aujourd'hui de nous inspirer. Bonjour Alma, bonjour Anne, bonjour Fanny. Je suis très heureuse de vous avoir à mes côtés pour ce troisième rendez-vous littéraire au Beau-de-Provence qui est une carte blanche à Anne Berest autour de la thématique de la jeune fille. Donc avant de commencer la lecture de deux textes que nous avons choisis, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour un petit peu présenter la jeune fille. Je ne suis pas faite pour haïr, mais pour aimer. Ces paroles de l'Antigone de Sophocle ont résonné en moi, jeune fille, comme un cri, un appel à vivre ma vie. La parole d'Antigone est un refus, un acte de désobéissance. Antigone appelle à briser les chaînes d'une fidélité inconsciente qui retient toutes les jeunes filles captives d'une histoire qui n'est plus la nôtre. Antigone est l'héroïne tragique par excellence, une allégorie de la résistance, le personnage de la révolte faite jeune fille dans la mythologie grecque. Antigone défie l'autorité de son oncle Créon, nouveau roi de Thèbes, en voulant donner une sépulture à son frère Polynice. Pourquoi sommes-nous encore, aujourd'hui, interpellés par l'ardeur de cette jeune fille qui déjoue l'autorité de son oncle et les lois de la cité ? Le cri de révolte d'Antigone résonne encore en nous car c'est celui d'une jeune fille bravant les rapports de pouvoir. Antigone fait face, elle résiste et refuse de céder face à des lois injustes. Elle nous rappelle aujourd'hui encore qu'il faut savoir désobéir afin de devenir soi-même et sujet de sa propre histoire. Pendant des siècles, la jeune fille a été brimée par l'autorité de ses aînés. Et l'espace même de la désobéissance n'était pas possible pour elle, au risque d'être enfermée, rejetée par sa famille ou de mourir. Il lui a été longtemps interdit d'explorer, d'oser, de désirer, d'avoir le goût du défi et de l'aventure, et de choisir pour elle-même sa propre trajectoire. Mais cette situation n'appartient pas qu'au passé. Car nombreuses sont les jeunes filles qui subissent encore le poids de certaines injonctions et qui sont condamnées à demeurer soumises à des lois injustes. Et c'est pourquoi, je le dis avec tout mon cœur, que je dédie cette rencontre aujourd'hui à toutes ces jeunes filles qui osent dire non et à toutes celles qui n'ont pas le droit d'affirmer leur indépendance et qui luttent pour un autre avenir. Grandir, se transformer, quitter l'enfance pour atteindre la femme est un cheminement complexe, au cours duquel la jeune fille lutte contre certaines représentations idéalisées de la féminité. Et cette métamorphose de la jeune fille en femme s'est souvent faite dans la honte et le secret. Écrire est un moyen puissant de résister aux stéréotypes, de s'opposer aux conventions dans un espace de liberté à soi, pour affirmer une soif de vivre et dépasser les horizons bornés. Nombreuses sont les femmes qui, par l'écriture, ont su perpétuer dans leur vie d'adulte cette ardeur passionnée de la jeune fille, cette promesse faite à soi-même de ne pas plier, de résister et de ne pas renoncer à son désir. Et de plus en plus nombreuses sont les écrivaines qui se penchent aujourd'hui sur la jeune fille qu'elles ont été pour lui redonner la parole afin de défier les blessures occasionnées par la jeunesse et l'innocence brisée. J'ai choisi de donner carte blanche à l'écrivaine Anne Berest pour explorer ce thème avec moi. Tout d'abord parce que j'ai une grande affection pour toi, Anne, et que tu es aussi une grande amie de la maison Chanel. Mais aussi parce que Anne est habitée par cette volonté farouche d'affirmer son indépendance. et qu'elle garde en elle cette ardeur passionnée de la jeune fille et qui la pousse sans cesse à explorer de nombreux aspects de l'émancipation féminine dans son œuvre. Et nous sommes aussi très heureux d'avoir à nos côtés Alma Jodorowsky, actrice et chanteuse, et qui va à présent nous lire deux extraits que nous souhaitons mettre en avant aujourd'hui. Tout d'abord, un passage de « Jeune fille » d'Anne Wiazemski, un récit qui revient sur le moment de sa métamorphose de jeune fille à femme dans sa vie. Et ensuite, un extrait de « Sagan 1954 » d'Anne Berest, au sein duquel la narratrice nous révèle ses rêves de jeune fille qui sont des rêves d'écriture. Je vais laisser maintenant Alma nous faire cette lecture.
Je commence par « Jeune fille » d'Anne Wiazemski. C'était le printemps. Et pour la première fois depuis 2 ans, depuis la mort de mon père, je l'attendais avec impatience. Dans mon cahier de texte, j'avais recopié ces lignes extraites d'un roman de mon grand-père, François Mauriac. Le bonheur, c'est d'être cerné de 1000 désirs, d'entendre autour de soi craquer les branches. Si la première partie de cette définition m'était encore inconnue, je commençais à entrevoir la seconde. J'écoutais, j'entendais autour de moi craquer les branches. C'était diffus, nouveau, troublant. Cela surgissait sans raison, n'importe où. Je rêvais alors à ce que pourrait être ma vie. J'étais agitée, traversée de bribes d'espoir. Mais cette ivresse printanière ne durait pas, et je me retrouvais accablée, certaine que rien, jamais, ne me détournerait de ma médiocrité. La vision de mon corps achevait de me décourager. Il avait subi une sorte de mue, et la jeune fille que j'étais en train de devenir m'était étrangère. Depuis notre rencontre dans l'appartement de l'île Saint-Louis, il ne s'était pas manifesté. Florence ne s'en inquiétait pas. Il hésitait, il prenait son temps. Il me contacterait, elle en était convaincue. Son assurance m'impressionnait. Nous ne nous étions pas revus, mais elle me téléphonait régulièrement. Un autre souci me tourmentait, un autre suspense. Depuis la rentrée de septembre, le ministère de l'Éducation nationale envisageait de supprimer le baccalauréat entre la classe de première et la classe de philo. J'étais en classe de première, au collège Sainte-Marie de Passy. Cela me concernait au plus haut point. Et un matin, alors que je désespérais plus qu'à l'ordinaire de ma future vie, la merveilleuse information arriva. Il n'y aurait plus, au mois de juin, de baccalauréat. C'était un cadeau du ciel, la preuve qu'une bonne étoile veillait sur moi. Et je me remis à espérer avec un regain d'énergie. Il allait se manifester. Il se manifesta. « C'est pour toi !» Je n'avais pas entendu la sonnerie du téléphone, ni ma mère répondre. Elle me tendit le combiné en silence, avec une expression craintive que je ne lui connaissais pas. Puis, sans dire un mot, elle quitta la pièce. Referma-t-elle la porte derrière elle? Je ne m'en souviens pas. Je m'étais déjà détournée de manière qu'elle ne voie pas mon impatience, la subite rougeur de mon visage, le tremblement de mes mains. « C'est vous, enfin !» Vous m'avez beaucoup manqué, je pensais tellement à vous. Dites-moi que vous aussi vous pensiez à moi. Hier, c'était jeudi. Comment avez-vous occupé votre jour de congé? Et votre collège, vous l'aimez? C'est un collège religieux, je crois. Parlez-moi, dites-moi ce que vous voulez. Quand j'entends votre voix, c'est comme si vous étiez devant moi. J'ai besoin d'entendre votre voix pour apprendre à vous connaître, savoir un peu mieux qui vous êtes. Deuxième extrait, Sagan 1954, d'Anne Berest. En rentrant dans mon studio de location, je reçois un message du jeune homme qui ne me rejoindra pas à Saint-Tropez. Je suis triste. Alors, au lieu d'écrire les dernières pages du livre, je rédige cette lettre. Tu ne veux pas me rejoindre dans le sud parce que, dis-tu, tu ne peux pas payer le billet de train. Mais en même temps, tu refuses que je te l'offre et ce refus me rend triste. Pourtant, je te comprends. À ton âge, je n'aurais jamais accepté qu'un homme plus âgé que moi me paye un billet pour le rejoindre. J'aurais pensé, il me prend pour une pute. Ou plutôt, j'aurais pensé, quelqu'un quelque part pourrait dire que je suis une pute. J'aurais beaucoup pensé, au lieu de jouir du voyage, de tout simplement. Et puis, pourquoi pas, de jouir de ressembler à une pute. Je te comprends parce que j'ai eu ton âge, il y a peu de temps. Je sors à peine de cette vingtaine que j'ai traversée sans rien comprendre. De cette décennie qui m'a paru très longue. J'ai été à côté de tout, en particulier à côté de moi. Je n'ai pas saisi les chances qui s'offraient à moi. Je n'ai pas pris les risques. J'avais peur de mourir avant d'avoir vécu. J'avais peur de ne pas devenir quelqu'un. J'étais enfermée dans les idées que je me fabriquais. Une fausse idée de moi-même. Car oui, j'avais une idée précise et haute de ce que devait être la mise en place des éléments de ma vie qui m'autoriseraient à enfin jouir. Tu ne peux pas savoir. J'ai passé mes 20 ans sans être débarrassée de moi. Je me portais comme une promesse fragile, comme un habit trop neuf que l'on ne veut ni user ni tacher, qu'on ne veut sortir qu'aux grandes occasions et qu'au final on ne porte jamais. J'attendais que ma vie commence parce que je voulais qu'elle advienne. Mais si aujourd'hui tu me demandais « Voudrais-tu revivre tes 20 ans d'une autre manière ?» Je te répondrais non. Car c'est de m'être tant empêchée que j'ose aujourd'hui te demander de prendre le train. C'est d'avoir cru qu'il existe des circonstances que je ne sais même plus ce que signifie ce mot aujourd'hui. C'est d'avoir eu tant de peur qu'aujourd'hui je n'ai plus peur de rien. Donc je ne t'en veux pas de ne pas prendre ce train. Mais sache seulement que ces 2 jours que nous ne passerons pas ensemble, personne ne te les rendra. Maintenant, à cette seconde précise où je t'écris ces mots, je voudrais revoir cet angle de ton visage qui m'est apparu au moment où je t'ai dit qu'il ne faudrait plus nous voir. Tu m'as alors demandé si j'avais toujours voulu devenir écrivain. Je ne t'ai pas répondu car j'étais surprise de ta question. Voici avec un peu de retard la réponse que je t'aurais faite si tu étais venue ici me rejoindre. Oui, j'ai toujours voulu écrire. Bien avant de savoir ce que cela pouvait bien vouloir dire, écrire. Un peu comme un enfant rêve d'être pompier. Pour le rouge du costume et parce que le camion brille. Et puis un jour, l'enfant devenu adulte se retrouve face au feu et comprend qu'il n'a jamais songé à la peur, seulement au prestige. Mais qu'il va falloir maintenant éteindre le feu et pour cela supporter la chaleur, l'angoisse et l'odeur des corps brûlés. Je voulais écrire pour la vie d'écrivain, qui me semblait être la seule qui valait la peine d'être vécue. Et je tentais tant bien que mal de faire de ma vie un roman, tandis qu'écrire, c'est le contraire. Écrire, c'est s'arrêter de vivre des heures, des jours et des mois durant. C'est penser que les êtres qui partagent votre temps vous le volent ou vous le gaspillent inutilement. Écrire, c'est peu à peu se retrancher du roman de la vie.
Merci beaucoup, Alma, pour cette très très belle lecture. Anne Berest, nous avons entendu, tu as entendu ta propre voix, enfin, c'est-à-dire la voix de ta narratrice à travers la voix d'Alma dans ce texte que tu as écrit, dans ce roman que tu as écrit il y a quelques années. Que t'inspire cette lecture quelques années après l'écriture de ce texte ?
C'est une expérience très étrange parce que, évidemment, les écrivains, nous ne nous relisons pas. Je ne connais pas un écrivain qui dise « Ah tiens, hier soir, j'ai relu mon livre ». Et donc, nos livres, nous les oublions. Et c'est même nécessaire de les oublier, de les effacer pour faire advenir le prochain. Et donc, en entendant la si jolie voix d'Alma, ça me fait l'effet qu'on a tous ressenti quand, par exemple, vous voyez une photo de vous que vous ne connaissez pas, qu'on vous montre. Vous ne saviez pas qu'on a pris cette photo de vous qui date d'il y a quelques années. Quand vous la regardez, vous vous dites « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai été cette personne-là à ce moment-là. » Mais cette personne vous est presque devenue étrangère. Donc voilà, c'est une drôle d'expérience.
Un sentiment d'étrangeté. Donc.
Oui.
Alma a également lu un extrait de « Jeune fille » d'Anne Wiazemski. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Anne Wiazemski, nous dire qui elle a été, ce qu'elle a fait ?
Oui, je suis très heureuse de parler d'elle, de lui rendre une forme d'hommage, même si nous allons parler à travers elle de la jeune fille et d'autres auteurs. Mais d'abord dire que j'ai eu la chance de la rencontrer et tout cela a du sens, de la rencontrer d'une certaine manière grâce à Virginie Viard. Et elle m'impressionnait beaucoup, comme je crois elle a impressionné tous les gens qui ont croisé sa route. Et pour dire brièvement quelques 2-3 choses que je sais d'elle, disons, rappelons qu'elle est née après-guerre en 1947 et qu'elle devient très jeune à la fois une figure et un visage du cinéma de la Nouvelle Vague. Et si je dis une figure et un visage, si je fais cette distinction, c'est parce qu'elle avait évidemment d'abord, cette chevelure, cette rousseur dont les gens qui l'ont connue parlent, qui marquait comme une couronne de feu autour de ce visage à la peau si photogénique qui a inspiré les plus grands réalisateurs. Et si j'ai une figure aussi, c'est parce que, comme toutes les égéries, c'est une jeune fille qui a inspiré par ce qu'elle était les réalisateurs avec lesquels elle a travaillé. Et en particulier, celui qui sera son mari, Jean-Luc Godard, qui avait l'habitude même de lui voler certaines des phrases dites dans l'intimité et qu'il remettait dans les films. Et elle raconte ça dans son livre, était presque furieuse. Elle ne comprenait pas qu'au départ, qu'il lui vole ses répliques. Et puis même, il s'inspirait d'elle, en particulier dans la chinoise, il s'est inspiré de sa vie comme étudiante, en philo, à Nanterre. Donc voilà, figure et visage. Et puis, elle a cette carrière qu'on lui connaît, où elle travaille avec les plus grands, avec les plus grands réalisateurs italiens. Et puis, au fil du temps, elle le dira elle-même, quelque chose ne la nourrit plus. Et elle fait ce passage à l'écriture, qui n'est pas facile, parce que, rappelons-le, elle est quand même la petite fille de François Mauriac, c'est-à-dire du grand écrivain, du prix Nobel de littérature qu'il a reçu en 1952. Et elle s'autorise ça, elle s'autorise cette émancipation, elle s'autorise à écrire, et elle publie d'abord un recueil de nouvelles, puis un premier roman qui a un grand succès. Elle est tout de suite accueillie et par la critique et par le public merveilleusement dans cette nouvelle vie d'écrivain. Et au fil de ses romans, elle bascule dans l'autobiographie, avec ce que j'appellerais voilà, sa trilogie autobiographique, où elle revient sur la jeune fille qu'elle a été, avec, je trouve, et je ne suis pas la seule, un immense talent d'écrivain. Mais bon, on y reviendra.
Mm-hmm. Alma, donc dans l'extrait que vous avez lu, Anne Wiazemski attend le choix d'un rôle qu'elle pourrait incarner, et ce rôle va changer sa vie. Vous êtes actrice. Qu'est-ce que vous a évoqué la lecture de Jeune fille d'Anne Wiazemski ?
C'est un livre qui est extrêmement sensible et extrêmement juste sur la naissance d'une vocation, en fait. Et je trouve qu'il est très bouleversant à ce niveau-là, sur la naissance d'une vocation, d'un désir aussi très très fort, très puissant, qui éclot en elle un peu d'un coup, comme ça. Et en même temps, ce désir qui est aussi confronté au désir d'un autre, d'un metteur en scène, qui va désirer qu'elle soit dans son film ou non, qui va réussir ou non à projeter son personnage sur elle, à s'inspirer d'elle. Et la peur que ça peut provoquer aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose de très galvanisant dans l'idée de justement incarner ce désir de création artistique et en même temps tétanisant, parce qu'on a l'impression aussi de dépendre de quelqu'un d'autre, quoi. Et on n'a pas toujours le contrôle sur ça, et elle le raconte vraiment très bien. Et ce qu'elle raconte dans l'extrait qu'on a lu aussi, c'est aussi cette envie et cette idée, ce fantasme assez typique, je pense, de la jeunesse, d'avoir envie de briller très très fort, très vite, et d'avoir cette impression qu'il y a un événement qui va faire totalement basculer notre vie. Et c'est une idée qui est très belle, mais qui est pas toujours très réaliste. Et en grandissant, on comprend la complexité finalement de ça. Et je trouve que c'est hyper beau de le mettre en relation avec ton texte, parce que justement, ce que tu racontes avec ce recul, c'est aussi que, en fait, il faut vivre dans le présent, et que le fait de tellement projeter un futur extraordinaire peut aussi nous bloquer dans quelque chose. Et je trouve que les deux textes se répondent vachement bien sur ça.
Mais juste par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser aussi à sa rencontre avec Jean-Luc Godard, où finalement son désir est tellement fort, son désir de faire du cinéma, son désir d'aimer est tellement fort qu'elle a l'audace de lui écrire cette lettre après avoir vu le film masculin-féminin, et où finalement, par l'écriture, où elle dit son désir à cet homme, finalement, elle, elle provoque quand même une rencontre. Parce qu'elle n'est pas dans l'attente de la passivité, finalement, que quelqu'un vienne poser son regard sur elle.
Et pour revenir à cette thématique de la jeune fille, quelle jeune fille étais-tu, Charlotte?
Toujours très difficile de parler de soi. Je dirais que je me reconnais un petit peu dans le texte de Anne aussi, dans peut-être le fait d'avoir eu beaucoup de peur aussi, jeune fille, d'être trop perfectionniste, de m'imposer un certain nombre de défis, une certaine idée de moi-même à laquelle je devais correspondre. Et donc, oui, j'avais un côté jeune fille rangée, très studieuse, très perfectionniste, et en même temps un côté très exalté, passionné, révolté, qui m'est sans doute venu de l'écriture et de la lecture, dans le fait de me dire que qu'il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur de moi, et que dans l'espace de mes journaux intimes, de là où je pouvais écrire, ça pouvait exister. Et quelque part, il y avait ces deux aspects. Mais c'est très dur de parler de soi.
Oui, surtout dans un moment aussi transitionnel,
oui.
Le moment du passage de l'adolescence à l'âge.
C'est un moment de métamorphose, donc on ne peut pas... Ouais. Jeune fille, c'est un moment... c'est difficile de définir dans le temps ce que...
Mm-hmm. Et toi, Anne, quelle jeune fille étais-tu?
Comme je le dis dans ce passage, j'étais une jeune fille qui avait beaucoup de peur. Mais j'ai été élevée par des parents qui ont sans doute croisé Anne Wiazemski dans les couloirs de Nanterre, qui faisait partie de cette génération de mai 68. Et donc, j'ai été élevée avec l'idée qu'il était interdit d'interdire. Et donc, mes sœurs et moi avions une liberté totale sur tout. On pouvait tout faire. Et donc, je crois que cette liberté m'a fait peur. Et que j'avais le sentiment qu'il fallait que je sois moi-même presque ma propre autorité face à ce champ des possibles qui était trop vaste. Donc j'étais une jeune fille très sérieuse, trop sérieuse.
Sage. Alma?
Non, mais c'est drôle parce que je me reconnais aussi dans plusieurs choses que vous venez de dire toutes les deux. Enfin, je pense que c'est pas un hasard qu'on se retrouve sur cette lecture ensemble et cette discussion. J'ai aussi, je pense, été un peu encombrée par justement les stéréotypes de la jeune fille... que ça soit au niveau de la sagesse, de quelque chose de petit, de pas trop expansif ou des choses comme ça, ou que ça soit même aussi par rapport au désir extérieur, aux commentaires qu'on peut avoir très très jeune sur notre physique, sur notre apparence. Et je pense qu'en protection et en rébellion à ça, je me suis vachement construite à l'intérieur, un monde intérieur assez fort, qui pouvait être vu un peu comme de la timidité ou presque même parfois de la froideur. Enfin, alors qu'en fait, je pense que c'était juste une espèce de construction en opposition à cet aspect très extérieur qui me revenait tout le temps, quoi. Et ça me faisait pas mal complexer, en fait. Je pense qu'en grandissant, je me rends compte que c'est une force aussi. Plus je deviens femme, plus je sens que c'est un atout et que je me sens plus libre d'exprimer ce que j'ai à l'intérieur aussi. Mmh.
Vous avez incarné au cinéma et au théâtre des rôles de jeunes filles. Qu'est-ce que vous retenez de ces rôles que vous avez incarnés?
Je pense que justement, par rapport à ce que je viens de dire, j'ai fait assez attention à ne pas trop rentrer dans des stéréotypes de la jeune fille, etc. Du coup, ça a plus glissé dans un truc presque dangereux, enfin dans la séduction, quoi. Le personnage, pas la jeune fille sage, mais plutôt celle qui, dans son mystère, peut incarner un danger. Parfois, il y avait un peu de ça. Et en même temps, des personnages aussi un peu rebelles. Et c'est le personnage rebelle qui, finalement, s'exprime le plus, je trouve. Et c'est un peu ce dont tu parlais, Charlotte, dans ton introduction. Je trouve qu'il y a vraiment cette idée de la parole aussi dans la rébellion, etc., qui est assez juste aussi dans les personnages de fiction au cinéma. Mmh.
Anne, donc tout à l'heure, on a entendu un extrait de ton livre Sagan 1954, qui raconte de manière parallèle la vie d'une grande écrivaine, Françoise Sagan, et ton rapport à l'écriture. Quand est-ce que tu as su que ta vie serait consacrée à l'écriture? Quand et comment ça s'est fait?
Je dirais à la fois très tôt et très tard. C'est-à-dire que très jeune, j'ai su que j'allais travailler soit dans le monde du théâtre, soit écrire. C'était comme une évidence. Mais j'étais adolescente, hein, des 12, 13 ans. C'était mon rêve. Et puis arrive la vingtaine, et là, la vie me dit qu'en fait, on ne peut pas vivre ses rêves. Il faut travailler, qu'il faut gagner sa vie. Et donc, j'ai commencé très, très jeune à travailler, tout en faisant mes études. Parce que je ne me suis pas autorisée ce rêve d'adolescente. Et je dirais que j'ai travaillé pendant presque 10 ans, et où j'avais abandonné cette partie-là de moi. La vraie vie, c'était pas se raconter qu'on allait écrire. Et puis, au fil des années, il y a quelque chose en moi qui s'est mis à beaucoup souffrir. Beaucoup. Et où j'ai senti que ma survie, elle passerait par le fait de se dire « Bon, bah, ça passera ou ça cassera, mais j'écrirai et qu'importe. » Et donc, j'ai publié mon premier livre à 30 ans. Enfin, non, 31. Et donc, voilà. Il y a eu 10 ans durant lesquels, en n'écoutant pas cette voix ancienne, je me suis laissée presque mourir à petit feu.
Anne, la jeune fille est une désignation culturelle qui interroge notre goût pour les stéréotypes, mais également notre tolérance à leur égard. À ton avis, pourquoi ce motif de la jeune fille a tellement de succès en littérature et dans les arts en général ?
Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire de la littérature sur la question de la jeune fille, c'est que à un moment donné, dans le stéréotype, s'opère une révolution. Pendant des décennies, la jeune fille est l'objet littéraire. Elle est celle qui est l'héroïne du livre. Enfin non, pas l'héroïne, mais la fiancée du héros. Elle est celle que l'on fantasme ou que l'on moque. Mais elle est toujours l'objet de celui qui écrit. Et puis, à un moment donné, il y a une révolution dans l'histoire de la littérature. Ça démarre avec Colette. Et la jeune fille n'est plus un objet, elle devient celle qui écrit. Et alors là, ça commence à inquiéter un peu. D'ailleurs, Colette, au départ, écrira sous le nom de son mari. Et cette jeune fille qui, jusque-là, n'écrivait que dans le secret de sa chambre et qui se met à publier, devient, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à Wiazemski, qui écrit, qui provoque son destin en écrivant, la jeune fille se met à publier et à dire ce qu'elle pense des hommes qui, jusque-là, ont écrit sur elle, de dire ce qu'elle pense, elle, du monde des adultes, souvent avec beaucoup d'ironie. La jeune fille de la littérature la plus connue étant Françoise Sagan, à laquelle j'ai consacré un livre. Et tout d'un coup, les jeunes filles ne vont plus cesser de publier et de devenir leur propre héroïne. Parfois, en étant elle-même très jeune, publiant très jeune, et c'est une figure... On peut penser à Lolita Pie, par exemple, qui, encore récemment, au moment où elle arrive sur la scène littéraire, fait scandale. Et puis, Charlotte, tu l'évoquais dans ton introduction, aujourd'hui, et Anne Wiazemski en est peut-être l'une des premières auteurs à revenir sur la jeune fille qu'elles ont été pour pouvoir raconter leur propre vision des faits, leur façon dont elles ont vécu leur vie de jeune fille, comment elles ont regardé les hommes qui ont voulu prendre des choses d'elles. Et bien sûr, les mouvements littéraires récents nous montrent là qu'il y a quelque chose qui se passe de très fort dans ce renversement des rôles, et qui évidemment est réjouissant.
Donc il y a quelque chose en fait de l'ordre du changement sociétal finalement. Enfin, je veux dire, ça passe à travers l'écriture, puisque l'écriture a été un refuge pour la jeune fille.
C'est mais un changement sociétal, parce qu'à chaque fois, ça fait scandale. Mm-hmm. À chaque fois, il y a quelque chose, scandale ou sujet de société.
Mais c'est pas un hasard, enfin, on en parlait aussi sur le fait que finalement, la plupart, enfin, énormément de jeunes filles ont tenu un journal intime ou ont écrit ce qu'elles ressentaient. Et justement, parce qu'il y avait ce sentiment peut-être de honte, ou en tout cas une difficulté à affirmer leur désir par un jeu, et que quelque part, c'était une activité presque clandestine et secrète. Mmh.
Mais c'est intéressant, tu parles du journal intime comme étant en fait l'outil littéraire de la jeune fille. Anne Wierzemski a tenu des journaux grâce auxquels ensuite elle a pu écrire ses livres. Et finalement, on se dit, c'est le journal intime qui est un peu parfois considéré comme une pratique de jeune fille, comme un peu mièvre, comme un truc. Et en fait, c'est le premier acte d'écriture, le premier acte d'écrivain. Et voilà, et dans le cas d'Anne Wierzemski, va être un vrai outil de travail pour ensuite écrire ses romans. Donc il est très important d'écrire son journal.
Oui, c'est surtout un acte de libération, parce que c'est à travers l'écriture, comme si, en fait, l'écriture servait de buvard avant de passer à la déclaration vis-à-vis de la société, en fait. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'euphémisation à travers l'écriture, et après, on va vraiment pouvoir affirmer réellement qui on est.
À part si c'est pensé, comme Anaïs Nin, par exemple, dans son écriture, dans ses journaux, où on sent que c'est pensé pour être
lu
à un moment donné.
Quoi. Elle est consciente qu'il y aura d'autres regards que le sien.
C'est assez étonnant, du coup, le mélange, d'ailleurs, entre l'intime et le public au moment de l'écriture.
Mais dans l'ensemble, il y a quand même quelque chose de l'ordre du stéréotype qui reste. Encore aujourd'hui, quand on évoque la jeune fille, on la veut souvent innocente, fragile, un petit peu vulnérable. Et par exemple, si on pense à la mythologie, la jeune fille a toujours été liée à la mort et au sacrifice. Et en ce qui vous concerne toutes les trois, quel est le stéréotype qui vous interroge le plus ? Le stéréotype lié à la jeune fille qui vous interroge le plus, Charlotte, par exemple ?
Peut-être le stéréotype, en tout cas, qui est le plus lourd, c'est celui peut-être de la pureté, c'est-à-dire de rattacher la jeune fille, en tout cas de lui imposer, ou en tout cas dans notre imaginaire, cet idéal de pureté qui n'existe pas et qui est dangereux d'ailleurs, puisque toute injonction inconsciente à la pureté est la porte ouverte à une forme de violence ou d'intégrisme, et du fait qu'on est des êtres de chair, des êtres de devenir, des êtres incarnés, on ne peut pas être dans cette pureté. Et très souvent, ce qui a pu être vécu de façon assez violente pour beaucoup de jeunes filles par rapport à ce stéréotype qui perdure encore énormément, d'ailleurs, c'est d'être soumis à quelque chose d'impossible. C'est-à-dire d'incarner quelque chose d'impossible. Et tu parlais de la mythologie, c'est différent. Enfin, moi, je fais une différence entre les stéréotypes qui sont quelque part quelque chose qu'on plaque, qui efface toute particularité. C'est une idée reçue, quelque part. Alors que dans le mythe, il y a quelque chose, à mon sens, dans le mythe d'Antigone, dans le mythe d'Iphigénie, dans toutes ces grandes figures de la mythologie où la jeune fille est liée à la mort et au sacrifice, on pourrait dire « Ah non, quelle horreur, on veut plus de ça ». En fait, dans le mythe, il y a quelque chose qui met en scène des puissances aussi, des forces, des énergies qui disent quand même quelque chose de la condition humaine, qui nous confrontent quelque part avec des éléments qui perdurent en fait à travers le temps. Et cette question de la jeune fille et la mort, je trouve qu'elle est encore importante aujourd'hui, parce que dans une société d'autant plus où il y a cette idéalisation de la jeunesse, du corps de la jeune fille, dans la mythologie grecque, le fait de rattacher le corps de la jeune fille dans ce qu'il a de plus, dans cette espèce de perfection quelque part, de le confronter à la mort et à cette contradiction entre une féminité à son point d'éclosion, c'est quelque part de nous dire que cette beauté-là, elle est fragile, éphémère et vouée à disparaître. Et puis pour revenir sur la pureté, je fais un lien aussi avec Antigone par exemple, où quelque part Antigone nous dit dans le mythe tragique d'Antigone, que la seule pureté qui vaut, c'est la pureté d'un amour absolu, dans sa dimension spirituelle absolument inaliénable. Et c'est la seule forme de pureté qu'on peut quelque part défendre, et pas celle du stéréotype qu'on plaque sur quelqu'un. Donc voilà, c'était... Mmh.
Je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur Antigone, justement, parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais en cours de théâtre, c'est un texte qui revenait souvent, qu'on joue souvent, etc. Et je comprenais pas l'envie de jouer ce personnage, parce que du point de vue de la jeune actrice que j'étais et tout ça, il y avait quelque chose de tellement dur dans l'idée que la seule issue de la désobéissance, ça soit la mort, en fait. Moi, j'avais envie qu'on me donne à jouer des textes où, au contraire, c'était la désobéissance, c'était la force, c'était le progrès, l'avancée. Et c'est que plus tard, en discutant et en l'analysant, en fait, avec plus de distance, finalement, que je comprends et que je peux comprendre maintenant tout à fait l'analyse que t'en fais, qui est hyper intéressante. Mais c'est vraiment aussi une histoire de point de vue, de là où on se place.
Oui, et puis c'est aussi difficile aussi d'accepter que, quelque part, il y a encore aujourd'hui des jeunes filles sacrificielles. C'est-à-dire que le fait d'être libre d'aimer, de créer, de croire, de désirer, ben forcément, ça implique encore et malheureusement un sacrifice terrible. Et peut-être que oui, c'est difficile parfois de l'accepter, mais ça reste quand même quelque chose de
présent.
De présent. Et c'est pour ça que le mythe est toujours actuel et nous confronte.
Traverse
le temps.
Mais en tout cas, Antigone voit ce rapport à la mort et au sacrifice comme un don d'amour. Donc il faut aussi avoir cette idée à l'esprit quand on pense à Antigone. Antigone, ce n'est pas la mort comme finalité, en fait. Anne Wiazemski se confronte, elle le raconte dans Jeune fille, au moment de quitter son foyer, et notamment sa mère, elle se confronte à toutes sortes d'interdits contre lesquels elle se rebelle comme elle peut. Est-ce que Jeune fille, en réalité, ce roman ne serait pas un roman d'apprentissage au féminin où l'interdit triomphe en guise d'épreuve ?
C'est beau ça, où l'interdit triomphe en guise d'épreuve. C'est une belle formulation. Le personnage, qui est elle, hein, mais qui est un personnage tout de même, puisque c'est de la littérature, est confronté à une société pleine d'interdits. D'autant plus que nous sommes en 65, elle a 18 ans, et il faut se souvenir qu'à l'époque, 18 ans, c'est être mineur. Donc, étant femme et mineure, elle est doublement soumise à un certain nombre d'autorités, la société, évidemment, une autorité familiale, contre laquelle elle va devoir s'émanciper. Mais ce qui me bouleverse dans le livre, et ce que je trouve merveilleux, c'est que quand on lui propose ce rôle, tout le monde, toute sa famille se dit « Est-ce qu'elle va pouvoir faire du cinéma ? Est-ce qu'on va accepter ? Est-ce que son grand-père va accepter ?» Et malgré cette peur, il y a deux moments importants dans le livre, avec sa mère et avec son grand-père, où malgré le fait qu'ils ont l'air de dire « ça ne va pas être possible », ils vont lui donner une autorisation tacite. Et je trouve que c'est très beau, parce que c'est grâce aussi à ces toutes petites autorisations que l'enfant qu'elle est s'autorise à devenir libre. Et il y a cette scène-là aussi qui est merveilleuse avec son grand-père, qui est une figure d'autorité immense dans la société française à ce moment-là. Donc tout le monde tremble pour savoir s'il va donner l'autorisation qu'elle tourne ce film. Et elle avait un lien très particulier à son grand-père. Elle dit qu'elle était un peu sa petite fille préférée, qu'il l'avait toujours trouvée différente des autres et qu'il s'intéressait à cette différence-là. Et le grand-père donne l'autorisation. Et c'est très beau, et ça dit quelque chose aussi de l'écriture d'Anne Wiazemski, qui n'est justement, elle, jamais dans le stéréotype. Et bon, ça m'intéresse, moi, à mon endroit d'écrivain, de voir comment elle sauve tous ses personnages, elle sauve toutes les situations, souvent par le rire, et ça c'est et l'humour, ça c'est merveilleux, et qu'elle est, voilà, dans un rapport à la fois pudique et complexe aux situations qu'elle décrit.
Mmh. Oui, c'est tout à fait juste. Finalement, le personnage le plus espiègle du livre, c'est François Mauriac. Cette figure qu'on s'imagine très imposante, et en réalité, il est presque frivole. il voit sa petite fille évoluer dans ce
plaisir.
Monde avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de joie.
Ouais.
Et on voit dans ce roman, donc Jeune fille, que de part et d'autre, Anne Wiazemski est un peu assaillie par ce qu'on pourrait appeler l'interdiction du devenir. On l'empêche de s'émanciper, de devenir la jeune femme qu'elle voudrait être, parce qu'elle devrait rester telle que la fantasme, l'imaginaire de la jeunesse et de la candeur. Et la question que je voulais te poser, Charlotte... est-ce que c'est pour cette raison, à ton avis, que la jeune fille est avant tout mélancolique et tragique ? Simone de Beauvoir, par exemple, développe tout ça dans Le deuxième sexe, dans son chapitre sur la jeune fille.
Alors, je dirais que c'est peut-être... enfin, l'interdit, en tout cas, je pense qu'il y a toujours une part de fantasme de la part des parents, quelque part, de garder leur enfant... enfant, de garder
intact.
Peut-être intact, de garder une forme de pouvoir qu'on a parfois du mal peut-être à s'avouer, mais que c'est pas facile d'accepter le devenir aussi. Et forcément, c'est quelque chose qui peut arriver, mais c'est pas l'interdit qui rend mélancolique, parce que dans le cas de Simone de Beauvoir, par exemple, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, l'interdit du devenir, elle l'éprouve de manière très violente. Elle se rend compte que ses parents, sa famille bourgeoise, la manière dont ils conçoivent son avenir est entièrement fermée. Il n'y a pas d'ouverture possible. Elle ne voit aucun signe pour pouvoir être quelqu'un. Mm-hmm. Mais cette interdiction du devenir va avoir quelque part, parce qu'elle étouffe, va déclencher un surcroît de révolte et de désir et d'envie. Donc, c'est pas la mélancolie, à mon avis, c'est aussi peut-être davantage un refuge aussi qu'on peut éprouver, qu'on peut avoir soi-même aussi d'assumer son désir dans un monde où il y a souvent des discours contradictoires, des ambivalences qui viennent des parents, de la société. Mais ce qui est très fort dans Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, c'est qu'elle traverse toutes ces émotions. La joie la plus pétillante et à la fois le désespoir aussi de vivre enfermée dans cette famille. Et elle vit toutes ces émotions en même temps. Donc elle est ni une jeune fille mélancolique, elle est ni une jeune... enfin, elle vit toutes ses émotions. Elle s'autorise finalement ses extrêmes. Et je pense que l'écriture de soi, le fait de revenir sur cette jeune fille qu'elle a été, c'est une manière de réunifier son identité, de retisser le fil aussi et de retrouver cette continuité par l'écriture.
Justement, je crois que tu as sélectionné un extrait des Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir.
J'ai sélectionné un petit extrait pour le plaisir de le lire, parce que vraiment, c'est un texte que j'aime énormément. Et donc, c'est en fait dans Mémoire d'une jeune fille rangée, quand elle se rend compte d'un moment de rupture avec sa famille, qui correspond d'ailleurs au moment où elle commence à écrire son journal intime. Et elle commence... finalement à accorder plus de place à ses sentiments, à son monde intérieur plutôt qu'au monde extérieur. Et donc je vais vous lire un petit extrait que je trouve très beau. Personne ne m'admettait tel que j'étais. Personne ne m'aimait. Je m'aimerais assez, décidais-je, pour compenser cet abandon. Autrefois, je me convenais, mais je me souciais peu de me connaître. Désormais, je prétendis me dédoubler, me regarder, je m'épiais. Dans mon journal, je dialoguais avec moi-même. J'entrais dans un monde dont la nouveauté m'étourdit. J'appris ce qui sépare la détresse de la mélancolie et la sécheresse de la sérénité. J'appris les hésitations du cœur, ses délires, l'éclat des grands renoncements et les murmures souterrains de l'espoir. Je m'exaltais comme au soir où, derrière des collines bleues, je contemplais le ciel mouvant. J'étais le paysage et le regard, je n'existais que par moi et pour moi. Je me félicitais d'un exil qui m'avait chassé vers de si hautes joies. Je méprisais ceux qui les ignoraient et je m'étonnais d'avoir pu si longtemps vivre sans elles. On pourrait lire encore des pages et des pages.
Merci beaucoup, c'est vraiment très très beau. Je ne sais pas ce que vous a inspiré ces lignes de Simone de Beauvoir.
J'ai envie d'en entendre encore beaucoup plus.
Ce qui nous touche beaucoup, et en se penchant sur ce thème, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans la littérature contemporaine, beaucoup de livres en ce moment sont consacrés à la jeune fille. Et je pense qu'à tout moment de la vie, on peut non pas retrouver cette jeune fille, parce que c'est pas, s'agit pas d'être dans la nostalgie, mais je pense que dans ce moment de passage, de métamorphose, dans ce moment où il y a un cri, quelque part, de révolte, à un moment donné, une envie d'être soi-même, et on devient sujet, on se construit. Et ben, parfois, quand dans ce moment-là, il y a eu des interdits, des chaînes, parfois, des générations précédentes qui nous ont peut-être empêchés d'éclore, ou qu'on n'a pas protégé ce moment d'éclosion, eh bien, le fait de retourner, non pas dans le temps d'avant, mais par l'écriture, peut-être de restituer quelque part la sensation de ce moment-là. Et en retrouvant cette sensation, on peut retrouver une forme de promesse faite à soi-même qu'on a pu éprouver dans le moment.
On peut penser, je ne sais pas, au consentement, par exemple, de Vanessa Springora, quand elle écrit ce livre. Voilà, elle n'est plus la jeune fille qu'elle était, elle porte un regard a posteriori sur la jeune fille qu'elle était, tout comme Simone de Beauvoir, quand elle écrit « Mémoire d'une jeune fille rangée », elle a déjà 50 ans, et de la même manière, Anne Wiazemski, quand elle écrit « Jeune fille », n'est plus du tout une jeune fille.
Et, mais ce qui est fascinant dans son écriture, quand on se demande qu'est-ce qui fait un grand écrivain, on va dire qu'il y a trois grands champs, les deux premiers sont assez évidents, la question du style. Le second champ, c'est la question du regard. L'écrivain est celui qui va avoir une façon de regarder le monde ou de regarder quelqu'un avec une telle précision ou telle nouveauté ou étrangeté qu'il fait, nouveauté en écriture. Mais on parle peu de la question de la mémoire. Pour être un bon écrivain, il faut avoir une certaine mémoire. Et elle, ce qui m'impressionne, c'est que lorsqu'elle écrit « Jeune fille », elle a une telle acuité de la mémoire de la jeune fille qu'elle a été, qu'on a l'impression qu'il a été écrit sur le moment. Mm-hmm. Alors qu'il y a des strates de vie et de souvenirs et de transformation de la femme qu'elle est, qui sont passées entre le moment de la jeune fille et le moment où elle écrit, et on a l'impression que c'était la veille. Et ça, c'est le voilà.
Mais
le
je fait me suis demandé écrivain. Aussi si c'était pas le pouvoir du cinéma aussi, du fait que dans ces moments-là aussi, elle a été quelque part
à un moment donné captée, si tu veux, dans ce qu'elle a été
dans un espace-temps très resserré par peut-être. Je me suis posé la question.
C'est vrai, mais néanmoins, elle a parfois dans son écriture. Un souvenir de la psyché de la jeune fille, de sa pensée qui passe d'une chose à une autre, d'une émotion à une autre, qui est d'une telle justesse.
Ouais, c'est très impressionnant. Elle tenait des journaux, elle tenait un journal intime.
Oui, oui. Mais ouais. Néanmoins, je trouve que voilà, une de ses grandes qualités d'écrivain est celle-là.
Et est-ce que la jeune fille existe aujourd'hui encore? Et si elle existe, sous quelle forme? Est-ce qu'on l'a... Est-ce qu'on peut la voir ou...
Elle existe, je trouve, dans une... enfin, par rapport à ce que vous disiez sur l'écriture d'aujourd'hui aussi, il y a quelque chose qui dépasse en fait l'écriture. C'est aussi que ça se transmet au niveau de la parole, au niveau du dialogue entre les femmes à un moment donné qui arrive peut-être plus tôt qu'à une certaine époque. Enfin, moi, j'ai l'impression d'observer et moi-même... De vivre ça aussi, d'un dialogue qui naît et qui est nourri par beaucoup de lectures, et que ça soit de la fiction ou non. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très actif, je trouve, dans les jeunes filles d'aujourd'hui, qui ont envie de participer à un débat sociétal et public, aussi grâce aux personnages de littérature, fictifs ou non. Parce qu'ils sont amenés par les personnes qui vivent ces situations-là, et c'est leur parole à elles, c'est notre parole à nous, et c'est ça qui circule, en fait.
En tout cas, aujourd'hui, il y a une véritable déconstruction de tous les imaginaires, pas uniquement de celui de la jeune fille, mais de n'importe quel genre, de n'importe quelle construction sociale qu'on impose et qui étouffe les individualités. Pour finir, je voudrais poser une question à Anne. Tu es romancière et tes romans décrivent et mettent en scène des jeunes femmes. Est-ce que tu vas bientôt nous livrer un récit où l'écriture de soi, d'inspiration autobiographique, aura sa place ?
Tout à fait. Je suis en train de terminer ce qu'on appelle les épreuves, qui portent très bien leur nom. C'est-à-dire que c'est le dernier état du manuscrit avant qu'il parte en fabrication. Et ce livre, comme le livre que j'ai écrit précédemment avec ma sœur, Gabrielle, qui était un livre qui racontait, qui revenait sur une partie de l'histoire de notre famille, là, j'aborde une autre partie, une autre branche, assez sombre, moins joyeuse, mais et dans laquelle j'alterne les époques, le récit du passé et le récit de ce qui m'arrive au moment où j'écris ce livre.
Voilà. Est-ce qu'il t'a été difficile, justement, de peut-être parler de toi ou de te confier à travers l'écriture ?
Oui, dans ce livre-là, c'est vrai que je parle plus de moi que dans les précédents. Et c'est à la fois, voilà, ça perturbe, ça questionne et c'est pas simple. On en revient au début de ce que disait Charlotte, c'est pas simple de parler de soi.
Merci beaucoup à toutes les trois.
Merci.
Charlotte, Anne, Alma.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Rue Cambon, un podcast de la Maison Chanel.